Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Sur RDWA 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr, parlons du festival Est-Ouest cette année en Finlande avec autour de la table Stéphanie Lefrère. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et également Isabelle Catois. Bonjour à toi.
Bonjour.
Nous sommes ensemble pour parler un peu plus particulièrement du lancement de cette édition. Peut-être qu'on va commencer d'ailleurs avec toi, Isabelle. Et puis Stéphanie Lefrère, ce sera pour présenter une exposition « Changement climatique en Laponie ». Voilà. On aime parler du changement climatique sur RDWA, donc on va se remettre un peu dedans. Isabelle, allez, c'est parti. Tu voulais nous présenter ce lancement.
Le lancement, c'est ce soir à 19h à la mairie de Die, donc l'inauguration du festival. Et juste avant, donc à 18h30, on aura le vernissage de l'exposition Changement climatique en Laponie. Ensuite, on enchaînera avec la première projection d'un film, un conte finlandais, ce soir à 21h. Et puis demain, plein d'ateliers, des films. Voilà, le festival commence.
Tu es le chef de cette édition, hein, c'est ça ?
Dis-la, non, je suis une fille.
La chef ? Merci. Je croyais que c'était comme le pompier ou le gendarme.
Maintenant, on peut dire les deux, je crois.
Ah bon, d'accord.
Ouais, soyons.
Bon. Alors, tu es donc la chef. Madame
la chef,
bonjour.
Festival Est-Ouest 2014.
Et qu'est-ce que tu nous dirais sur cette édition particulièrement ?
Écoute, c'est une édition qui est assez diversifiée, je dirais. On a plein d'entrées possibles pour découvrir la Finlande, que ce soit donc avec le cinéma, les spectacles, évidemment la littérature qui est quand même pour nous la base de cette édition et des éditions précédentes. Mais voilà, des belles expositions, un volet socio-géopolitique avec cette transversalité nature-culture-transmission, voilà, qu'on retrouve vraiment en Finlande et qu'on retrouve aussi en écho donc avec le territoire.
Est-ce que c'est une première fois, ça ?
Non, on l'a toujours fait sur le volet socio-géopolitique. Hein. Il y a toujours eu un regard entre le pays invité et puis ce qui se passe aussi ici chez nous.
Oui, je me rappelle de l'édition notamment l'année dernière en Italie, sur cette ville de Trieste qui avait quand même une vie sociale très particulière. Oui. Pourquoi la Finlande aussi, qui est quand même pas un pays si à l'est que ça, j'allais dire ?
Qui n'est pas si à l'est, mais en même temps de son histoire et de sa langue aussi, moi je pense qu'il est, ce qu'on a découvert, hein, ce n'est pas un pays scandinave, c'est un pays nordique qui a un lien très fort donc avec la Russie de par sa situation géographique, même au niveau de la langue, donc c'est une langue finno-ougrienne, proche du hongrois, proche du turc, voilà, donc il y a aussi des racines quand même plus à l'est qu'au nord. Mais je pense que Stéphanie aussi pourra en dire beaucoup plus que moi là-dessus, et puis peut-être qu'on peut justement enchaîner, hein, je suis sûre. Sur cette exposition.
Allons-y, Stéphanie Lefrère. Donc, changement climatique en Laponie. Présentez-nous cette exposition.
Alors oui, cette exposition, déjà dans un premier temps, c'est une exposition qui trottait dans ma tête depuis une dizaine d'années, depuis que j'ai fait mes études sur le comportement des rennes en Laponie finlandaise. Voilà, j'ai eu l'occasion de faire mon doctorat en Finlande et j'y suis restée du reste. Et puis grâce à ce poste que j'ai donc obtenu au Musée régional de Laponie, comme conservateur là-bas du département d'histoire naturelle, j'ai pu enfin créer cette exposition parce que le changement climatique est un thème qui me tient vraiment à cœur. Et aussi, je voulais qu'on sorte du cliché Laponie touristique, Laponie du Père Noël,
oui, voilà.
Laponie des safaris en ski, en renne, en motoneige. Je voulais vraiment qu'on montre enfin la vraie image de la Laponie, de sa nature qui est resplendissante, mais aussi une nature qui est fragilisée, malheureusement, de nos jours, par précisément ce changement climatique.
Quand on est au nord, c'est là qu'on voit finalement le plus les changements climatiques.
Exactement. Et si moi, je vous parle de ma propre expérience personnelle, je peux vous dire que ça fait 16 ans maintenant que je suis en Finlande. Et il y a 16 ans, en octobre, nous avions déjà beaucoup de neige, de la glace sur les lacs. Il faisait moins 20 degrés. Et maintenant, à Noël, on n'a presque pas de neige finalement, voire parfois pas du tout de neige. C'est inquiétant.
Vous avez une batterie, on va dire, de scientifiques, de gens derrière vous avec des preuves très précises.
Oui, et en fait, ça a été aussi le but de cette expo. Je ne voulais pas que ce soit une expo Google, voilà, à savoir faire une recherche sur des moteurs de recherche sur Internet, ce n'était pas le but. Ayant moi-même donc une formation scientifique, j'ai demandé à plus de 50 chercheurs dans des institutions et des universités finlandaises de me donner les données scientifiques les plus récentes, en fait. Donc, c'est vraiment une exposition qui est à la fois scientifique, mais aussi pédagogique.
Alors, comment on marie les deux? Parce qu'on sait que vulgariser la science, c'est un peu complexe. Hein.
C'est vrai, c'est pas évident, mais en fait, je pense que grâce à ma formation de scientifique, mais à la fois pédagogique, parce que j'ai aussi un peu enseigné, j'ai été conférencière, et j'ai toujours aimé me mettre à la portée du public, en fait, aussi bien les enfants que le public de tous âges confondus, en quelque sorte. Et mon but, c'est de populariser la science, en fait, pour que le message puisse vraiment passer de la manière la plus sérieuse possible.
Est-ce que vous avez des méthodes à nous dévoiler?
Oui, en fait, ce que je pourrais vous dire, c'est que l'idée, c'était qu'elle soit très visuelle, cette expo. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs partenaires, en fait, des institutions. Donc, je pourrais vous les citer, en fait, l'Institut de France, l'ambassade de France en Finlande, dont était partenaire, aussi le ministère de l'Environnement finlandais, le Centre de recherche en environnement en Finlande. Et on a eu la chance de pouvoir utiliser les services de leur graphiste, qui a fait un travail extraordinaire, parce qu'on a pu, travailler ensemble et voir justement comment combiner les photos et les textes scientifiques, les graphiques et tout ça, pour vraiment le mettre à la portée du public, même les enfants en fait.
Donc pour présenter l'exposition, c'est une photo qui va illustrer une situation, qui va être expliquée scientifiquement après ?
L'exposition, c'est un ensemble de posters sur différentes thématiques. C'est pour vous montrer que le changement climatique affecte toute la biodiversité, à la fois zoologique et botanique, donc en Laponie. Vous avez des résultats donc à la fois météorologiques qui vous montrent des modèles, et à savoir que d'ici une centaine d'années, les moyennes des températures en Laponie pourraient augmenter de 6 à 8 degrés, selon ces modèles. Et donc la glace et la neige risquent de fondre vraiment énormément et affecter malheureusement la diversité, et voire même menacer certaines espèces en fait. Et donc au travers des panneaux, vous pouvez voir les rennes, les lemmings, des plantes caractéristiques de Laponie, telles que la renoncule des glaciers, vous pouvez voir les mousses, les lichens, les élans, enfin vous avez plein d'exemples en fait de tous les animaux et plantes qu'on peut trouver là-bas, et à chaque fois, comment ils vont être affectés, comment ils sont déjà affectés du reste.
Oui, vous en 16 ans, alors vous pouvez peut-être nous faire un portrait un peu noirâtre de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on voit disparaître, par exemple, s'il y en a?
Je voudrais pas
Comment
qu'on
sont-elles affectées?
Oui, mais je ne voudrais pas qu'on tombe dans un scénario non plus catastrophe hollywoodien, parce que ce n'est pas le but non plus d'effrayer les populations. Mais le but, c'est quand même qu'il y ait une prise de conscience, voilà, qu'il commence à se passer quelque chose. Dans ces régions subarctiques et arctiques, on voit effectivement donc, le réchauffement, ça c'est clair, fonte des glaces, fonte des neiges. Et vous avez déjà une espèce de mousse qui a disparu. Et ça, nous savons que le changement climatique, c'est le facteur responsable de cette disparition. Parce qu'il y a 10 ans, ce n'était pas encore un facteur, malheureusement. Et ça, on peut le voir sur les listes de conservation de la nature. Par exemple, l'IUCN, l'Institut donc, mondial de conservation de la nature, vous faites une liste de toutes les espèces qui sont menacées. Et on voit que c'est le changement climatique maintenant pratiquement à tous les niveaux. Et si vous prenez le renne ou le lemming, donc le lemming, ça ressemble à un petit hamster, en fait. Et ça vit dans ce qu'on appelle les Tunturit, les montagnes de Laponie.
Et avec énormément de poils, c'est très joli.
Oui, c'est très mignon, c'est vrai. Et en fait, ces animaux-là, bon, surtout le renne, qui est vraiment le symbole de la Laponie, sont très affectés par le réchauffement. Parce que ce qui se passe, c'est que paradoxalement, avec ce réchauffement, même si la neige fond, la glace fond, mais on a davantage de chutes de neige et on a aussi des pluies givrées ou givrantes. Voilà. Et donc, il y a la formation d'une croûte de glace sur la neige qui rend inaccessibles les lichens et les mousses qui sont sous la glace. Et donc, les lemmings ne peuvent pas manger donc, les mousses et les rennes ne peuvent pas accéder à leurs lichens non plus. Donc, s'ils n'ont plus de nourriture, eh bien, qu'est-ce qui va leur arriver? C'est assez paradoxe.
Voilà, c'est assez paradoxal. En même temps, c'est tout le problème de ce réchauffement climatique. Moi, je veux pas effectivement trop noircir le tableau, mais quand même, ce réchauffement, est-ce que vous constatez qu'il est dû à une activité humaine comme il est dit un peu partout? En même temps, il est aussi dit que nous arrivions dans une période où la Terre devait, elle aussi, cycliquement peut-être se réchauffer. Donc, si c'est une prise de conscience, d'accord, mais à quel moment il faudra commencer à s'en s'en inquiéter, avoir peur et agir.
Oui, en
parce
effet.
Que c'est, ce discours-là de prise de conscience, voilà, il y a eu une marche pour le climat, c'est un peu toujours la même chose, quoi. Bon, on est content, on défile, les pauvres rennes, mais enfin...
En fait, malheureusement, c'est vrai que les activités humaines sont les principales responsables du réchauffement, puisque c'est vrai qu'il y a une évolution naturelle hein, sur la planète. Bien sûr, il y a un changement qui est constant. Mais là, ce que l'on remarque vraiment, c'est que depuis la révolution industrielle, depuis l'utilisation des énergies fossiles telles que pétrole et charbon, il y a une augmentation notable des gaz à effet de serre. Et malheureusement, c'est ça qui entraîne l'augmentation des températures. Et en Laponie, on peut constater sur 100-150 ans que les températures moyennes ont augmenté d'un degré et demi. C'est probant, finalement. On ne peut pas le nier. Et ceux qui le nient devraient lire davantage de publications scientifiques, précisément, et venir précisément voir cette exposition quand elle vadrouille, à la fois en Finlande et en France, et maintenant, justement, grâce au Festival Est-Ouest, et grâce à Harold David et à Isabelle Catois et à toute l'équipe, ici, à Die. Donc j'espère que la population pourra apprendre quelque chose voilà, concrètement de ce qui se passe en Laponie.
Est-ce que vous avez des mesures en tant que justement scientifique de ces gaz ? Est-ce que sont en cause uniquement les gaz à effet de serre ? Est-ce qu'on a répertorié un petit peu quelle activité humaine était en train de modifier comme ça le climat ?
Oui, en Laponie, les gaz à effet de serre sont principalement liés au chauffage et au transport en fait. Sachant que la Laponie, c'est quand même très loin. Donc c'est par exemple donc Rovaniemi, ce qu'on appelle la capitale du Père Noël, et donc encore plus au nord, à 400 km plus au nord, à Inari, là où j'ai habité avant. Pour faire venir des denrées alimentaires, il faut faire venir des camions du sud de la Finlande, d'Helsinki, voire même d'Europe centrale. Tout ça pollue énormément. Donc ça, on sait que c'est le facteur majoritaire en fait, de gaz à effet de serre. Et puis le chauffage. Pourquoi ? Parce qu'il fait, jusqu'à présent, il faisait encore froid en hiver. On peut avoir des moins 40. Hein. Donc, les gens ont tendance aussi à chauffer à outrance. Et donc, ça, malheureusement, c'est le principal facteur. Oui, on le sait. Et paradoxalement, par habitant, il y a en Laponie, en moyenne, davantage de gaz à effet de serre qu'à Helsinki, vous voyez. Et il y a une solution à cela.
Allons-y.
Oui, mais alors, il faut tous qu'on y mette du sien. Donc, la première solution, ce serait d'utiliser davantage d'énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire. Du reste, lors de l'exposition, vous pourrez voir qu'il y a des panneaux solaires qui sont présentés, des panneaux solaires qu'on peut mettre sur les toits, et aussi des panneaux solaires portables que l'on peut emmener partout avec soi pour recharger ses caméras, ses téléphones. C'est vrai qu'en Laponie, bon, il ne faut pas oublier qu'on a là-haut 3 mois de jours continus, 3 mois d'hiver continus aussi quasiment. Donc, c'est pas toute l'année qu'on pourrait se servir de panneaux solaires. Mais ça peut compléter en quelque sorte. On peut utiliser cette énergie parce que le soleil, quand même, c'est notre astre et il faut en profiter.
Vous avez donc 16 ans d'expérience, une exposition qui tourne un peu partout, y compris en Finlande, subventionnée même par quelques organismes finlandais.
Oui.
Politiquement, où se place la Finlande par rapport à cette gestion de l'énergie et l'écologie d'une manière générale ?
La Finlande a adhéré maintenant, au même titre que l'Europe, à une politique d'adaptation au changement climatique. En fait, il y a une stratégie. Donc d'ici à 2030, il faut réduire la fraction... d'émissions des gaz à effet de serre, en fait, d'au moins 30%, enfin oui, entre 20 et 30%.
La France a signé aussi, on ne voit pas vraiment de volonté politique. Voilà, je ne vais même pas plus m'engager en disant ça, parce que c'est très très clair. Est-ce que la Finlande, elle, a mis quelque chose en place ? Est-ce qu'il y a des actions politiques concrètes ?
Politiquement parlant, je ne pourrais pas vraiment parler de la politique, puisque moi-même, je n'en fais pas. Moi, je parlerai d'un point de vue scientifique et écologique, plus en tant qu'une philosophie, mais je trouve que les gens ont tendance à respecter davantage l'environnement globalement en Finlande. Moi, je connais beaucoup de personnes qui vivent dans des petits chalets de bois ou qui ont ce qu'on appelle les mökki, les chalets d'été, et ils ont des panneaux solaires. Certains ont aussi des... comment est-ce qu'on appelle ça pour faire l'énergie éolienne. Parfois, j'oublie les termes en français.
Ouais, bah, vous pouvez nous balancer du finlandais
ouais,
en même
temps. Oui, du finlandais, les tout limulu, en fait, voilà.
Donc,
on va parler un petit
des
peu.
Éoliennes, hein,
des éoliennes. Des éoliennes, c'est bien ça, voilà. Donc, les éoliennes... bon, c'est vrai qu'il y a aussi un paradoxe par rapport à cela, c'est que les éoliennes affectent les oiseaux, malheureusement, et les chauves-souris. Mais il y a des nouveaux types d'éoliennes, justement, qui sont enfermés dans des cylindres. Et donc, les propels ne peuvent pas... ne peuvent pas blesser ou tuer les animaux. Donc ça, c'est une solution aussi.
Isabelle, vous avez fait des liens, encore une fois, avec toute l'éducation nationale d'Oise pour inviter...
Oui, justement, on essaie de sensibiliser. Après, dans le Diwa, on sait que les gens sont quand même réceptifs hein, par rapport à tous ces sujets. Mais effectivement, il faut les prendre dès la plus petite enfance. Donc on commence dès la maternelle, demain d'ailleurs, avec l'école maternelle de Chabestan, qui fera la visite de guider de l'exposition et puis des ateliers pratiques également. Et toute la semaine, tout le week-end, il y aura des visites et puis des ateliers ou des pistes d'ateliers qui seront faits en classe ensuite. Voilà.
Alors avec des enfants, comment on leur présente la catastrophe vers laquelle on va ?
En utilisant des mots simples, en leur montrant les photos des animaux, en les sensibilisant et en leur expliquant justement que c'est très important de protéger notre planète parce que c'est notre avenir en fait et c'est eux le futur de la planète. Donc le message doit vraiment passer par eux en fait. C'est ce qui m'a tenu le plus à cœur justement de créer des ateliers pédagogiques à Rovaniemi lorsque l'exposition a commencé en Finlande et de pouvoir développer cela en France et puis dans les autres pays après où l'expo continuera d'aller. Il est très important qu'ils voient justement quels sont les animaux et les plantes qui vivent en Laponie. Et ensuite, petit à petit, qu'on aborde les choses. Voilà, qu'est-ce qui se passe avec le changement climatique à la fois en Laponie et sur notre planète, et puis aussi en France, parce qu'on est tous touchés par cela. Hein. Il n'y a pas de frontières. Et donc, la deuxième partie de l'expo, c'est leur montrer quel type d'action concrète on peut prendre, justement, contre le changement climatique. Donc, je vous parlais des énergies renouvelables, mais ça peut commencer aussi tout simplement à la maison, à savoir trier ses déchets, composter, manger bio, si on peut, le plus possible, manger localement pour diminuer son empreinte écologique et adopter aussi une attitude responsable vis-à-vis de l'environnement, à savoir ne pas gaspiller finalement et acheter moins. On n'a pas besoin de changer de téléphone portable tous les 6 mois. On peut se contenter de peu et on peut recycler ses affaires aussi. On peut vraiment faire attention avec tout. Et puis les enfants à la maison, très tôt, je pense qu'ils peuvent aussi faire attention à ne pas gaspiller l'eau quand ils se lavent les dents, quand ils prennent une douche, économiser l'électricité, la lumière, penser à tout ça en fait.
Quand est-ce qu'on s'attaquera aux industriels ? Parce que c'est quand même eux qui produisent à fond, par exemple, du plastique, l'industrie pétrochimique, tout ça. Enfin, c'est bien beau de parler aux enfants. On peut espérer qu'ils ne travailleront pas dans ces industries-là, mais...
Vous voulez dire oui. Leur faire passer le message à eux ? Mais moi, je fais passer le message à tout le monde autant que je peux. C'est mon but, en fait. En plus de mon travail de conservateur, mon travail, c'est aussi d'être employée de la planète et faire de mon mieux pour que la planète aille mieux, qu'elle puisse respirer. Parce que la planète... Sans l'humain, elle s'en sortira. L'humain sans la planète, non, ce sera l'extinction de l'espèce humaine à un moment donné. Il faut sensibiliser un maximum les gens et j'espère que voilà, les gouvernants, eux aussi, pourront avoir la lumière et voir qu'il est temps de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Parce que je ne pense pas qu'on pourra quitter la planète Terre tout de suite, on n'en a pas les moyens.
C'est ça, donc on y va tous ensemble. Hein. C'est...
Voilà, il faut être solidaire, voilà, c'est ça le message à faire passer.
Avec l'expérience d'une exposition donc, qui se déplace beaucoup, quel retour vous auriez, quel bilan vous feriez de ce travail ?
Dans l'immédiat, j'ai un très bon bilan. Je suis vraiment très satisfaite parce que j'espérais pas tant en fait. À la base, c'était donc je la faisais en Finlande. Et puis bon, étant française, une Française qui travaille en Laponie, donc je me suis dit on va essayer en France. Et puis ça marche, ça marche plutôt bien. Donc il y a d'autres endroits qui sont intéressés. Et puis là, il y a une troisième version qui va partir en Russie. Ce sera en début novembre, dans des endroits qui sont très pollués. Expliquer aux enseignants comment faire les ateliers pédagogiques pour les enfants, pour qu'eux aussi commencent à adopter une attitude responsable là-bas, justement, là où ils ont beaucoup de pollution.
Des zones très polluées, c'est vous qui les ciblez, qui les choisissez, ou vous êtes appelés parce qu'ils ont envie d'un changement ?
En fait, j'avais très envie que ça se passe dans cette région de Barents, qui est très polluée, et puis de fil en aiguille, les choses se sont enchaînées et on a pu organiser ça, oui. Oui.
Donc c'est plutôt une exposition qui est sollicitée ou que vous prenez le temps de faire circuler et...
je prends le temps ouais, d'avoir beaucoup de contacts avec les gens, de contacter énormément de personnes. Mais là, en ce qui concerne le festival de 10, c'est Isabelle Catois, en l'occurrence, c'est Harold David qui m'ont contacté parce qu'ils m'ont trouvé sur Internet.
Ah, c'est utile, et, hein.
Voilà.
Bon
parce que les voilà internet
on
de nos jours
on y revient
c'est...
à Google quand même
voilà
hein.
ça peut quand même aider voilà ouais. L'expo était au parc Phoenix pendant 3 mois à Nice en hiver dernier. Et c'était la première version en France. Et ça a bien marché là-bas aussi.
Cette notion écologique du festival Est-Ouest.
Ouais, ça fait déjà un moment. Hein. Vous avez vu déjà en 2010, on a fait tout un volet. C'était uniquement là-dessus quand on était justement sur la Russie.
C'est la Russie, voilà. Mais voilà. Parce qu'on sait que la Russie pollue tellement.
Mais il y a une prise de conscience hein, quand même. J'ai rencontré beaucoup de Russes justement qui travaillent dans les musées là-bas. Et ils commencent aussi petit à petit à montrer aux enfants comment réagir, justement. Et il y a des politiques environnementalistes qui se mettent en place petit à petit. Donc, tout espoir n'est pas perdu. Je pense qu'on va y arriver. On va sauver notre planète.
Enfin, on va sauver nous plutôt que sauver la planète. Hein. Moi, c'est ce que j'ai entendu quand même dans ce discours. Hein. Si on veut se maintenir, planète s'en sortira.
Oui, voilà. D'une certaine façon, oui. Oui.
On peut donner les horaires aussi, parce qu'il y a un petit changement, c'est qu'au départ, l'expo devait être à la fois à la mairie de Die et au musée de Die. Et en fait, tout est rentré à la mairie, donc uniquement à la mairie. Donc toute la semaine, entre 9h et 12h et 13h30 et 16h, et le week-end entre 14h et 17h.
Quels espaces de la mairie ?
C'est le hall et puis la salle qui est contiguë, qui est dans le prolongement, voilà.
Il y a aussi quelques activités interactives pour les enfants.
Au musée, mais ça, c'est effectivement, de toute façon, c'est dans le cadre scolaire. Donc, ils visiteront l'exposition à la mairie. Ensuite, ils iront quand même au musée pour faire les ateliers.
On pourrait juste rajouter aussi que pour attirer encore plus de gens pour voir l'exposition. Donc, outre les panneaux et les photos, qui sont absolument splendides, des paysages de Laponie, bien sûr. Et vous avez aussi des diaporamas qui seront diffusés. Et puis, une ambiance sonore avec les sons de nature de Laponie. Donc, c'est aussi très relaxant de venir visiter l'expo. Et pour les enfants, il y a des quiz pédagogiques sur ordinateur avec un petit lemming, justement, qui est la mascotte de l'expo, qui viendra les aider pour répondre aux questions. Voilà, s'ils ont bien lu tous les panneaux. Enfin, ils ne liront pas tout, mais moi, je leur expliquerai tout, bien sûr. Donc, ils en sauront un petit peu plus à la fin, voilà. Et on pourra prendre des actions ensemble.
Combien ça coûte de faire une exposition comme ça ? Des belles photos, il faut des bons photographes. Du son, il faut des bons preneurs de son.
En fait, pour le son, j'ai eu la chance de rencontrer des Français qui font partie d'une association qui s'appelle Sonatura, sur la région parisienne. Ils sont venus en Laponie il y a une dizaine d'années. Ils ont fait beaucoup d'enregistrements, donc ils m'ont prêté des sons. Et puis, des étudiants de l'Université de Laponie avaient des sons également. Donc, ils avaient enregistré en pleine nature et ils ont fait des mixages. Et voilà, on est arrivé à ça. Donc, ça, finalement, ça ne nous a pas coûté quoi que ce soit, en fait. Des passionnés, voilà, qui ont accepté de coopérer. Donc, outre les chercheurs, il y a eu aussi beaucoup de gens, petit à petit, qui ont amené plein de choses. Et moi, j'avais pas mal de photos de ma propre banque de données, en fait. Mon compagnon aussi, quelques-unes qu'il a données pour l'expo, parce qu'on aime tous les deux la photographie de nature. Et puis, on en a acheté aussi beaucoup à des photographes professionnels, vraiment. Donc, photographes animaliers, photographes de nature. Et là, effectivement, oui, ça chiffre. Mais bon, vu le résultat, je pense que c'est capital. On avait besoin de ça, voilà. Ce n'est pas non plus un budget énorme. Et on a limité au mieux les dégâts financiers. Et puis, on a eu quand même des partenaires donc, qui ont donné des fonds. Donc, comme je vous le disais, le ministère de l'Environnement finlandais, l'Institut de France, l'Ambassade de France, le Centre de recherche en environnement. Et puis, on a surtout comme parrain aussi, je voudrais quand même le mentionner, parrain de l'expo en Finlande, VVF Finlande, et en France, VVF France. Donc, ils nous soutiennent moralement. Voilà. Et ça, c'est important aussi.
Et on peut dire aussi, je voulais rajouter ça, que des rennes, il n'y en a pas que en Laponie quand même. Ils ont été très largement importés ou exportés, comment dit-on ? J'ai entendu dire qu'il y en avait plein, les îles Kerguelen, par exemple.
Oui, c'est vrai. Oui, j'ai même failli aller au Kerguelen, du reste, il y a quelques années. Oui, c'est vrai, il y en a qui ont été délocalisés là-bas. Apparemment, le troupeau, aux dernières nouvelles, se portait bien. Mais je crois même qu'il commence à en avoir de trop. Mais je n'ai pas trop suivi, en fait, ce qui s'est passé maintenant. Mais ils s'adaptent. J'ai entendu aussi parler de rennes dans les Alpes, en France. Oui, j'ai rencontré deux personnes qui sont venues à Inari, en Laponie, et qui ont ramené des rennes de là-bas, oui. On avait des rennes en France, nous, avant. Mais avec la remontée des glaciers vers le nord, les rennes sont restées là-haut.
Ils sont déplacés.
Ils se sont déplacés, ils sont restés.
Et on parlera des reines aussi avec Mélodie Gagneux. Donc le mardi 30, il y aura voilà, une rencontre aussi avec Stéphanie, d'ailleurs.
Oui, oui. Et également, oui, je suis ravie.
Corto Fayal, qui, a fait qui est français et qui a fait un film justement sur les Sam et les éleveurs de rennes, alors plutôt côté suédois je crois. Il sera présent également et il présentera le film, et à l'issue de ce film il y aura justement tout un débat autour du changement climatique et de l'impact sur la faune et la flore.
Le renne a cette sympathie parce que c'est encore lié au Père Noël.
Oh, c'est un animal aussi qui est vraiment, il est mignon, il est charmant, moi je trouve.
Et puis c'est encore une culture, les derniers nomades, en tous les cas de Laponie, les Sam, l'élevage de renne est quand même primordial.
Il est encore primordial, c'est vrai, même s'il commence à péricliter, pas seulement en fonction du changement climatique, mais aussi maintenant.
Oui,
parce
par rapport à l'évolution,
l'évolution de la société. Voilà, les enfants ne veulent plus vraiment être éleveurs de renne comme leurs parents. Mais c'est vrai que si nous, on le voit à notre niveau, on trouve que c'est un animal adorable. Moi, en tout cas, les observations que j'ai pu faire pendant une dizaine d'années, je les ai trouvées très attachantes. Voilà.
Exposition Changement climatique en Laponie avec l'inauguration tout à l'heure, mardi 23 septembre à 18h30. C'est à la mairie de Die. Stéphanie Lefrère, merci pour cette présentation.
Merci à vous. Je voulais juste rajouter une petite chose. Pour la version française de l'expo, l'ambassade de Finlande à Paris a également été partenaire. Donc c'est important aussi. Je crois du reste qu'il y aura un représentant de l'ambassade de Finlande ce soir. Donc voilà, on a vraiment une très bonne coopération entre nos deux pays. Voilà, la France et la Finlande, donc c'est aussi formidable.
On le découvre. Un ambassadeur a dit, c'est pas mal ça quand même.
Oui, je crois que c'est le consul de Finlande de Lyon qui sera présent.
Ah,
ouais. Bon. Et la directrice de l'Institut finlandais aussi de Paris.
Et je tenais aussi à vous dire que ma première impression de Die est vraiment extraordinaire. Voilà, ça me rappelle les montagnes de mon enfance, puisque maman était savoyarde.
Ah,
et
oui.
Je trouve que les gens sont charmants ici. Donc première approche vraiment très très cordiale et paysage magnifique. Voilà, donc il faut que vous préserviez votre région, voilà, au mieux.
On essaye.
Plutôt pour, oui.
Parfois, c'est un peu la bataille, mais on essaye. Merci pour ces compliments. Merci encore, Stéphanie Lefrère.
Merci à vous.
Merci, Isabelle.
Merci,
encore.
Baptiste. À bientôt.
Eh oui, à très bientôt, puisque eh bien, on est dedans, donc on va enchaîner un peu les interviews avec le Festival Est-Ouest Finlande.
Interview.
Hej, då börjar vi.
L'interview du jour.